Et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Sybille Clamins. Où porter son regard cette semaine ? Sur ce vers du poème en prose « L'histoire du noyé » et de Yunus le Boiteux, du poète turc Nazım Hikmet, dont je vous encourage à creuser la biographie. L'amour est une drôle d'histoire. Tous ceux qui ne sont pas aimés ne se jettent pas forcément à la rivière. Vers extrait du recueil « Il neige dans la nuit », édition Gallimard. Depuis de nombreuses années, je n'invite en général pas de gens officiant sur la même chaîne que moi afin d'éviter l'entre-soi. Depuis de nombreuses années, j'attends donc que François Morel et Hippolyte Girardot soient congédiés de la chaîne pour avoir enfin l'occasion de les recevoir. Ce n'est toujours pas le cas, alors pour diverses raisons impliquant le temps qui passe, l'incertitude du futur et la direction, je néglige mon principe aujourd'hui et me réjouis de poser des questions au dernier non cité qui a commencé par déconstruire presque toutes les questions du questionnaire de l'émission avant de nous livrer une multitude de jolies choses à aborder. Comme il le fait souvent dans ses chroniques pour l'émission Par Jupiter. Argument supplémentaire, la majorité de son travail se déroule ailleurs, puisque ce grand comédien a été aperçu dans de multiples cadres imaginés par des loustiques comme Alain Corneau, Claude Berry, Arnaud Desplechin, Alain René, Costa Gavras ou dernièrement Wes Anderson.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Hippolyte Girardot.
Bonjour Eva.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Fort content, fort heureux.
Depuis toujours ?
Non, il y a des moments où on maudit de ne pas savoir quoi faire de cette mise au monde, mais en général, j'ai un état d'esprit qui me fait me réjouir de cela.
Et êtes-vous en bon terme avec vous-même ?
Non, alors ça c'est autre chose. Ça c'est, je ne sais absolument pas comment le matin je vais me réveiller et de quelle façon je vais me considérer. Tout dépend déjà si je suis nu ou pas. Donc est-ce que je m'aime à ce moment-là ou pas ? Ma tête est-elle à peu près ce que j'espérais voir ou pas du tout ? Le temps est-il à peu près celui que j'aimerais ou pas du tout ? Est-ce que j'ai un truc à faire dans la journée qui m'enchante, qui me fait ne plus me poser toutes ces questions ou pas ? Enfin, il y a beaucoup de choses qui effectivement peuvent influer sur la réponse à cette question.
Donc c'est inconstant.
Inconstant, le mot est juste.
Mais vous n'êtes pas terrassé par la cohabitation ?
La cohabitation.
Avec vous-même.
Non, je suis incertain.
Incertain, ouais, voilà. C'est ce qui va revenir beaucoup, parce que, en fait, quand j'ai vu vos réponses, Hippolyte Girardot, ou plutôt vos non-réponses au questionnaire, j'ai eu vraiment peur, je me suis dit, je ne sais pas comment préparer l'émission, et ensuite j'ai lu plein d'articles à votre sujet, et j'ai compris que vous n'aimiez pas l'exposition, ni la catégorisation, et la limitation inhérente au choix.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on est très vite, quand on nous pose une question, on est très vite en train de trouver une réponse. Il faut trouver une réponse, il y a une sorte d'urgence à absolument avoir quelque chose à dire. Et on se retrouve, moi je trouve dans une situation à faire de la narration autour d'une question, ce qui est tout à fait normal, logique. Sauf que je pense que la narration réduit énormément le champ de la question. C'est fait pour ça d'ailleurs, mais moi ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je préfère mille fois une petite question à mille réponses.
Bon, alors, il y aura quand même 1000 réponses dans l'émission. Et dans un instant, on va aborder... il sera question de rêves, d'activités révolutionnaires, de canifs, d'existence, de verbes, d'attention, de Céline et de pas mal d'autres choses que je ne dis pas parce que je ne sais pas ce qu'on aura le temps d'aborder. Mais on est ensemble jusqu'à 11h et ça, j'en suis quasi sûre.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne nous lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot.
Le dernier jour du disco de Juliette Armanet dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Hippolyte Girardot. Dream. Chanson de 1958, All I Have To Do Is Dream, du groupe des Everly Brothers, pour illustrer ce qui vous donne envie de vous lever, je vous cite, l'idée fausse d'être ailleurs, dans le rêve qui vient de se terminer ou celui que je pourrais faire si je me rendormais. Vous appréciez le réel, Hippolyte Girardot ?
Oui, Coffret, je sens le réel. Non, mais ce qui est vrai, c'est que depuis tout petit, je pense que l'activité de l'imaginaire, chez moi, a toujours été extrêmement développée, extrêmement encouragée par des parents absolument extraordinaires. Et j'ai un vrai monde dans lequel j'ai beaucoup vécu et que, dans lequel je continue à vivre, qui était très très présent dans ma vie tout de suite, quoi. C'est-à-dire une grande partie de ce que j'ai vécu, une grande partie de ce que j'ai aimé, etc., est quelque chose qui a beaucoup à voir avec, comme une vie rêvée, on pourrait dire. Je sais pas bien comment le définir, vous voyez, ça c'est parfait. C'est-à-dire que j'ai encore beaucoup d'années devant moi avant de trouver une définition.
Mais malgré tout, vous aimez vous réveiller?
Oui, bien sûr.
Non, mais bien sûr, c'est pas une évidence.
Ah non, moi j'aime me réveiller. Il y a une chose qui est géniale, c'est un truc qui est pas mal. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au moment de l'endormissement, quand on avait une bouteille par exemple dans les mains, qu'on se mettait dans un fauteuil, et donc on allait s'endormir. Si on vous posait un problème juste avant, quand la bouteille tombait, on vous demandait, alors c'est quoi la solution ? 80% des personnes qui s'étaient endormies trouvaient la solution plus facilement que celles qui ne s'étaient pas endormies, qui se réveillaient seulement le matin, le lendemain matin, pour trouver cette réponse.
Ah oui ?
Et je pense que le matin, il y a quelque chose qui est génial, si on a la possibilité de le faire, c'est de se réveiller très naturellement à une heure un peu trop tôt, et puis on se rendort, mais pas beaucoup, on se rendort une demi-heure, même pas. Et là, quand on se réveille, l'imagination, elle fonctionne à plein tube. On a plein d'idées, on a pensé à plein de trucs, des choses extrêmement différentes. Tout le monde inconscient, en fait, remonte à la surface. Ça, c'est vrai que j'aime bien me réveiller, mais le mieux, c'est me réveiller puis me rendormir pour me réveiller une deuxième fois.
Je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer dans votre environnement, dans la société. Vous avez répondu, on ne veut rien changer dans la société ni dans l'environnement. On veut changer la société et l'environnement. Oui, Hippolyte Girardot,
oui.
Et donc, on peut passer directement à la question suivante. Printemps 2011, en interprétant face caméra depuis l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, sa chanson « Kelmti Ora, ma parole est libre », Emel Matlouti est devenue une égérie du soulèvement tunisien et sa composition un hymne, chanson dénichée par notre réalisatrice Juliette Gou pour introduire une mélodie doucement révolutionnaire en studio, car pour vous, Hippolyte Girardot, l'engagement dans une activité révolutionnaire est la seule qui vaille puisqu'elle enclenche les autres. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par là et surtout cette belle expression d'engagement pavillonnaire que vous avez soulevée par la suite ?
Waouh, j'ai dit ça ?
Ouais, vous avez dit un journaliste russe ou chinois, qu'en écrivant un mot s'engage et le paye cher, et c'est toujours un engagement révolutionnaire. Donc pour le reste, j'ai le sentiment que chacun s'occupe de son jardin, mais les rues communes, c'est un engagement pavillonnaire qui est
proposé. Ouais, c'est un concept qui est intéressant, l'engagement pavillonnaire, exactement comme il y a eu ce concept dans certaines littératures, il y a un an ou deux, sur une France périphérique ou des choses comme ça. Je trouve que c'est des concepts qui permettent, en fait, de pas en dire trop, mais qui permettent peut-être d'avoir une sorte d'image de ce que c'est. Ça englobe finalement pas mal de choses. Et voilà, l'engagement pavillonnaire, c'est bien, c'est l'équivalent de, du tri des déchets par exemple, ou des bonnes œuvres comme ça, ça c'est très, très méritoire, il n'y a absolument rien à dire. Mais on sent bien qu'en faisant ça, on est en... le Titanic va de toute façon, enfin il a heurté l'iceberg depuis un certain temps, et donc on est là en train d'essayer de colmater bon, un petit peu des trous dans la deuxième classe, un petit peu dans la première classe, tout ça, la troisième aussi évidemment, mais ça ils sont à moitié noyés, de toute façon les pauvres, on voit bien, ils s'appellent tous Leonardo d'ailleurs. Et c'est un peu ça qui... Je me dis, merde, c'est con en fait d'avoir construit Titanic. On aurait, peut-être on pourrait penser le truc différemment maintenant, c'est-à-dire en disant, bon, on voit bien que le iceberg, on se l'est pris. Comment on peut faire pour que on fasse autrement, quoi? Parce que même toutes nos activités, nos bonnes activités pavillonnaires ne permettent pas de sauver la barque, quand même. C'est quelque chose qui est comme ça. Et ça, voilà. Et dire ça, c'est facile, c'est vrai, mais ça permet peut-être de penser plus globalement, peut-être de devenir un peu plus dur, c'est-à-dire un peu moins dans cette bienveillance qui peut être très hypocrite, d'être un peu plus dur, un peu plus radical, quoi. Et voilà, moi je pense que c'est quand même vers ça qu'il faut aller.
Vous allez jusqu'à dire, Hippolyte Girardot, que l'espoir c'est la mort, dès qu'on espère, on souffre.
Je pense que c'est pas moi qui le dis, je pense que c'est...
En tout cas, vous approuvez.
Oui, c'est bien sûr, c'est ça qui fait souffrir.
Donc pas d'espoir, de l'action.
Oui, dès qu'on fait quelque chose, on n'est pas dans l'espoir, on est juste dans la projection du futur, mais on n'est pas dans l'espoir. L'espoir, c'est comme si l'espoir était une sorte de vision qui dépasse le réel. Mais non, dans le réel, si on fait quelque chose, on avance, et à partir de ce moment-là, l'espoir, c'est plus une valeur en fait. C'est agir qui a une valeur.
Vous nous avez fait découvrir quelque chose d'ailleurs, en parlant d'action, qui est la voûte nubienne.
Ah, la voûte nubienne.
Racontez aux auditeurs de quoi il s'agit.
Écoutez, chers auditeurs, on est dimanche matin... Là où vous êtes, vous prenez peut-être un petit café, ou vous revenez, en tout cas vous êtes chez vous, plus ou moins, ou chez votre ami. Et c'est quand même une chose de base, vous êtes quelque part. Bon, il y a des tas de gens dans le monde qui sont nulle part. Alors, notamment en Afrique sahélienne, bon ben, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, on s'occupe de leur donner parfois des soins, parfois l'école, l'eau, etc. Mais l'habitat n'est jamais pris en compte dans toutes les actions générales qui se décident à l'UNESCO et ailleurs. Bref. Et la voûte nubienne est un procédé très ancien, ça remonte à 3000 ans. C'est ce qui a été découvert par des maçons, donc en Haute-Égypte, en Nubie à l'époque, de construire des voûtes, mais sans coffrage, puisqu'il n'y avait pas de bois pour faire le coffrage. Vous voyez, dès qu'on fait des voûtes, vous pouvez voir en ce moment dans le chantier de Notre-Dame, ils refont des espèces d'arches, bah, ils les coffrent et ensuite ils posent les pierres dessus. Ensuite on met la clé là-haut, la clé de voûte, et boum, ça tient. Eux, ils n'avaient pas ça. Ils ont trouvé un système absolument génial, qui est de construire des voûtes uniquement avec des petites briques de terre séchée, et de les faire tenir. Et moi, j'ai un ami, que je connais depuis tout petit, là, qui a épousé une femme, dont le mari était maçon. En 98, il s'est rendu compte que ce maçon construisait ses voûtes, et il s'est dit, on va en faire un truc. Et... je ne vais pas vous raconter dans le détail tout ce qu'ils font, parce que c'est quand même énorme, mais ils créent un habitat qui est, comment dire, sûr, un habitat qui est étanche, un habitat qui est climatisé naturellement, avec des matériaux qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire c'est de l'eau et de la terre, puisqu'il n'y a plus d'arbres, et qui permettent à des populations de se sédentariser, de pouvoir élever des enfants, de pouvoir créer des habitats, des écoles, etc., de rester chez eux, sans aller encombrer des villes où ils se retrouvaient dans des bidonvilles, sous des tôles qui sont, comme vous pouvez imaginer, très chères à produire en Chine, très chères à importer en Afrique, et qui en plus disparaissent au moindre coup de vent. Bref, la voûte nubienne, vous trouverez le site, je pense, à la fin de l'émission, allez voir, c'est un grand projet qui a besoin de s'agrandir pour qu'il devienne pérenne. Et c'est très, comment dire, c'est très vertueux. Il y a tout un cercle vertueux autour de cette voûte nubienne. Et c'est très, très beau.
La voûte nubienne, allez voir sur Internet. Et là, on arrive à la partie qui m'a posé le plus de problèmes dans le questionnaire, Hippolyte Girardot. Oui, ce sont les œuvres qui vous ont aidé à faire face au monde. Au début, vous vous êtes révolté contre cette question et vous avez dit qu'on vous imposait d'en donner 3 ou 4 maximum. Et ça, c'est juste une question de temps, en fait, de temps d'émission. Et puis après, vous dites que c'est digne des questionnaires de journaux qui n'en sont pas, où le name-dropping raconte l'invité à la manière dont la littérature achetée au maître envahit sa bibliothèque. Alors là, moi, je m'insurge parce que c'est la 9e sixième année qu'avec autant de passion et d'enthousiasme, j'essaye avec les invités de transmettre aux auditeurs des envies de voir, de lire, de découvrir des œuvres qu'ils n'ont pas forcément en tête. Et c'est vraiment la notion de service public qui est dans à peu près tout ce qui m'anime. Donc je vous trouve un peu dur sur ce coup-là, mais je sais que vous pensez que préférer, c'est exclure. Alors on va quand même exclure certaines œuvres, sinon on prend l'antenne pendant les 72 000 prochaines années.
Oui, c'est pas mal non plus. Si on nous sert à manger, à boire, on peut tenir. Hein.
Et puis il y a quand même quelques recommandations qui vont être faites dans un joyeux bazar. Alors vous aimez la peinture, la musique, le cinéma, la littérature et la route. Et on commence par ça, Hippolyte Girardot. Sur la route de Jack Kerouac, ça, ça fait partie aussi de votre panthéon d'œuvres. Et je dis panthéon, mais il y en a mille autres des œuvres qui vous habitent.
En fait, c'est comme la voûte nubienne, c'est plein de petites briques qui me permettent d'être bien assis sous ma voûte, je pense. Sur la route, c'est un livre que j'ai découvert, franchement, que j'étais ado et je faisais du stop avec mon cousin.
Comme le héros de Sur la route.
Et on a adoré ce livre. Je pense qu'on s'est un peu identifié aux deux personnages. Et en fait, je l'ai lu longtemps dans cette version qui existait à l'époque. Et puis, il y a quelques années, ils ont sorti ce qu'on appelle le rouleau intégral, qui était ce fameux... toutes ces feuilles qu'il avait fabriquées, collées ensemble et qu'il avait tapées pendant une vingtaine de jours, qui était la première version qu'il ait écrit vraiment en dormant très très peu, etc. Et qui a un son, qui a quelque chose, c'est dicté, quasiment c'est dicté. D'ailleurs, ce truc sur la dictée, ça, je fais juste un petit truc par rapport à ça. C'est comme quand on a retraduit chez Babel, quand on a retraduit Dostoïevski. Il y a eu vraiment une redécouverte de Dostoïevski. Et en fait...
André Markovitch.
Voilà, André Markovitch. En fait, Dostoïevski dictait la plupart de ses livres. Parce qu'il n'avait pas le temps de l'écrire. Il était pressé par l'argent, en fait, tout simplement. Et donc, c'est la nouvelle traduction de Markovitch, donc, rendait cette langue orale. C'est magnifique, magnifique. Et bon, alors, pour revenir à Kerouac, c'est vrai que l'oralité de Kerouac dans ce rouleau intégral m'a bouleversé à nouveau. C'était pas un retour à la nostalgie de l'adolescence, mais c'était le plaisir de retrouver une langue extrêmement vivante, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai lu en spectacle au Havre, je crois, une partie bien sûr, et c'était un souvenir absolument merveilleux.
Salut, hein? C'est bon la cuisine?
Oui, c'est bon. Non.
Mais tu crois qu'on va gagner quelque chose?
On va gagner. Si on gagne le poulet au fromage, c'est bon.
On fait un bon fromage, je mange. On fait rien du tout, je mange rien du tout.
Tu vas si on cherche du lait, on ne fatigue pas pour trouver du lait, on gagne ça. Du lait, on gagne. La main, c'est pour ça que j'ai
la brousse. La brousse
est mieux. Dans les grandes villes, toujours il y a des bruits. Toujours il y a des bruits. Il y a des voleurs, il y a tout. Il y a des merdements, il y a la crue partout. Et ici, tu vas, c'est bien.
Ah, c'est bon.
On dort bien, il y a de bon air.
Oui, c'est vrai.
C'est tranquille.
1974, Cocorico, Monsieur Poulet, réalisé par Dallarou, le trio formé par Damourezika, voilà. Lame Ibrahim Dia et Jean Rouche, un road movie franco-nigérien, caméra à l'épaule, à la façon d'un reportage. Hippolyte Girardot, un petit mot sur ce film.
J'ai découvert ce film dans une salle qui aujourd'hui a disparu, qui s'appelait Saint-Séverin, et ça m'a... Je sais pas comment dire, j'étais sur la route avec eux pendant l'heure et demie que constituait le film, quoi. Donc après, j'ai essayé d'en savoir davantage sur Jean Rouche. Et en fait, c'est un anthropologue qui a fait des films, documentaires, et qui était parti pour faire un film sur le commerce du poulet. Et puis, bon, ils avaient une deux chevaux pourris. Et donc, c'est en fait, comme dit le proverbe, l'homme prévoit, mais Dieu rigole, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont partis en freestyle. Et le film, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour ça. Je trouve que faut passer une heure et demie avec eux. Et après, quand on sort, la vie est vachement mieux, quoi.
Ah ouais, c'est drôle, c'est poétique. Il tient son rétroviseur à la main. Il n'y a pas de frein. Il met du bois pour arrêter la voiture.
Tout. C'est-à-dire qu'on paraît très ridicule à côté d'eux, en fait, parce que la façon dont ils vivent leur vie et leur commerce, hein, faut bien le dire, est tellement, remet en question absolument tout le temps sur le monde dans lequel nous vivons. C'est un film indispensable qui devrait être montré dans les écoles très tôt, très jeune.
Hippolyte Girardot, vous avez également choisi un film qui est sorti le 3 novembre dernier, Compartiment 6 de Juho Kuosmanen avec Sedi Arla et Yuri Borisov.
Bravo.
J'aurais
pas été capable de faire ça. Mais c'est un film. Il y a deux choses dans ce film. D'abord, c'est pour nous qui connaissons absolument pas ce que c'est que le nord de la Russie, c'est quand même un document incroyable. Voilà. C'est un film qui raconte une histoire d'amour merveilleuse entre deux personnes qui, effectivement, n'ont pas vraiment grand-chose à voir. Et en fait, on comprend que c'est sur un malentendu. Il y a une très belle chose sur la fin, sur la traduction qui ne se fait pas. Et c'est la découverte aussi, peut-être, de l'acteur le plus fabuleux que j'ai vu à l'écran depuis très 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 longtemps, quoi. Moi, j'ai toujours aimé les Russes. J'adore la façon dont ils jouent, dont ils prennent les personnages, dont ils sont intenses et dont ils sont capables d'être plus que là dans le film. C'est-à-dire qu'on a toujours parfois l'impression qu'ils ne jouent pas, mais qu'on est en train d'être, enfin, un documentaire sur eux. Et lui, il est au-dessus, quoi. Je sais pas quelle va être sa carrière, mais c'est un acteur à voir. Il faut voir ce que c'est. Un acteur comme ça.
On mettra toutes les références sur le site, évidemment. Oui. Et on reste en Russie avec vous, Hippolyte Girardot, puisque vous avez aussi choisi l'Oscar du meilleur film étranger, le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 95. Le film est sorti en 94. C'est Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov.
Ah oui, Nikita Mikhalkov, mais c'est un... En fait, c'est un film grand public. C'est un film qui a été produit par un Français, c'est doux, et qui est un film qui, effectivement, est arrivé à Cannes, a eu le date prix, etc., qui est un peu à la manière de Mikhalkov, qui est un personnage extrêmement controversé, et il y a de quoi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui, comme son frère Kontchalovsky, travaille la matière même du cinéma, c'est-à-dire le plan, la lumière, les acteurs, les costumes, tout ça. C'est comme, c'est une espèce de toile qui travaille, une espèce de sculpture qui travaille d'une manière que moi je trouve extrêmement libre et en même temps extrêmement forte. Encore une fois, peut-être parce qu'ils sont slaves, ou ça veut rien dire. Tout ce que je vais dire, voilà, ça va être des conneries maintenant parce qu'il faudrait dire la même chose des Italiens auxquels je pense. Enfin bref.
Bah justement, les Italiens, Nanni Moretti, Aprile.
Oui,
Aprile,
mais c'est Aprile, c'est... Le truc magnifique de Aprile, c'est quand il devient papa, hein, dans Aprile.
Voilà, c'est ça. Il a 40 ans et c'est au moment de l'accession de la gauche au pouvoir après l'épisode Berlusconi.
Ouais, c'est surtout l'accession de Nanni Moretti à la paternité, avec cette scène merveilleuse de son copain qui lui demande s'il n'a pas un mètre pour mesurer. Il dit si. Et il dit voilà, quel âge tu as ? Donc il fait 40. Il dit 40. Et à ce moment-là, il fait voilà ce qui te reste. En montrant ça jusqu'à 75 ans. Ça, c'est vraiment... Ça, j'adore ce genre d'image que le cinéma nous donne parfois. Et voilà. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row.
1965, Desolation Row, du prix Nobel de littérature Bob Dylan.
Ouais, incroyable.
L'allée de la désolation.
Bah, vous entendez cette voix ?
Oui, vous gigotiez avec le groove de Bob Dylan en studio.
Cette musique derrière, ce groupe merveilleux qu'il avait formé, ces paroles qui sont une espèce de logorée un peu rimbaldienne, comme ça qu'il peut faire, il y a quelque chose de réconfortant dans le fait de se rouler dans cette chanson. Et c'est pour moi la musique. En tout cas, je sais que la musique anglo-saxonne, à cause de cette recherche qu'ils ont fait très dans les années 60 sur le son, sur les voix, sur l'écho, les réverbes, etc., ça m'a complètement bercé. C'est comme un manteau que j'enfile. Je suis waterproof, quoi. Je suis pas allé partout dans le monde. Je suis protégé par cette musique.
On est waterproof en studio avec Hippolyte Girardot. Eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e na cor. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Vai, Toquinho! Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na tonga da mironga do cabulete. version de 1970 enregistrée dans un club de Buenos Aires, La Fusa, à Tonga do Mironga do Cabulete, chanson écrite par Vinicius de Moraes et composée par Toquinho, qui parle et plaisante pendant un long moment. C'est l'une des chansons vous berce aussi, Paulie Gérardin.
Bah ça c'est je remercierai jamais assez mes parents qui ne sont plus, mais qui m'ont vraiment, mes frères et moi, vachement encouragé à être curieux du monde, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, être curieux du monde, ça passait beaucoup par les voyages. Et c'était pas comme aujourd'hui, c'était plus compliqué, c'était plus artisanal, et aussi par la culture. Qui à l'époque, c'était pas la culture, en fait, c'était l'art, voilà. Et l'art, c'est quelque chose qui n'est pas là pour changer le monde, mais pour changer le regard qu'on peut avoir sur le monde. Et ils ont toujours été d'une grande, grande curiosité, à plein d'égards, aussi bien les arts premiers que les musiques qui, à l'époque, n'étaient pas tellement connues, comme la musique brésilienne. Et je pense que ça a vraiment créé chez moi une façon de connecter les neurones très, très particulière. Et je me souviens de cette chanson quand elle est arrivée à la maison, voilà, je crois que c'est ma mère qui l'avait rapporté, ou mon père, je sais plus, bref. Et on chantait à Tonga do Mironga do Cabulete, on adorait ça, etc. Puis après, on avait été le voir à l'Olympia, c'était un ambassadeur, un poète, un grand buveur, il était assis avec son petit fauteuil, sa bouteille de whisky, sur l'Olympia, Toquinho derrière, qui est un guitariste absolument génial, et on passait une soirée avec lui, avec plein de chansons. C'était un grand, grand, grand moment, quoi. Pour moi, c'était un grand moment. Voilà. Et Tonga do Mironga, ce qui est très bien, c'est qu'à l'époque, j'ai appris, en fait, c'est une chanson très dure contre les militaires. Parce que les années 70, il y a eu la bossa, tout ça, c'était un peu out. En fait, c'était vraiment les militaires, la croissance économique, et tous les gens, comme Vinicius, se sentaient dépossédés presque de leur pays. Et à l'époque, ils sortaient avec, je sais pas, ils s'est mariés 5-6 fois, ils sortaient avec une femme qui était de Bahia, du Nord, de Salvador. Et un jour, elle lui dit, j'ai entendu ça dans la rue. A Songa do Mironga do Cabulete. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans le cul de la fourrure de ta mère. D'accord. Il a trouvé ça super drôle. Il a changé un peu, au lieu de dire Songa, il a fait Tonga, etc. Avec Toquinho, ils ont commencé à improviser là-dessus. Et ils ont fait une espèce de chanson dont tout le monde, en fait, comprenait le sens politique, et dont évidemment aucun militaire ne savait le sens, puisqu'aucun ne parlait de ce qu'on appelait la langue nago, je crois, qui c'est la langue d'où venait cette expression. Et alors, quand j'ai appris ça, je chantais très fort à Tonga do Mironga do Cabulete tout le temps dans ma tête.
Hippolyte Girardot, je crois que vous avez fait les arts déco.
Oui, je les ai fait, oui.
Et il paraît que vous avez gardé de ça l'habitude de crayonner et de dessiner tout ce qui vous entoure.
Bah, j'aimerais bien, en tout cas, le faire, continuer à le faire. Oui, je le fais. Je dessine pour des amis, je dessine pour moi, je dessine. C'est mon plan dans la vie à très 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 longue échéance, c'est enfin de dessiner et peindre.
Et alors, l'une des portes d'entrée pour vous dans l'art, ça a été Paul Klee et ses écrits, et je le cite maintenant parce que justement, hors antenne, vous m'avez fait part avec beaucoup d'enthousiasme d'une exposition.
Il y a une exposition dont j'ai appris l'existence il y a très peu de temps, qui est au Musée d'Art Moderne de Lille, et qui a l'air absolument splendide, avec des œuvres de Klee qu'on n'a pas encore vues, qui étaient dans le centre Klee de Berne. Et donc ils sont là en ce moment, pas loin, à Lille, en France. Voilà. Donc évidemment, il faut voir ça. C'est un peintre extrêmement mystérieux, c'est un peintre très enfantin, c'est un peintre qui a tout de suite compris l'importance de la création des enfants, les masques, les clowns, les arts premiers, etc. Il a été engagé très tôt au Bauhaus, dans les premières années de la création du Bauhaus de Gropius. Et donc, c'est quelqu'un qui, si vous rentrez dans une toile de Paul Klee, vous commencez à sentir des choses qui sont très intimes et qui évidemment auront à voir avec ce que vous avez ressenti quand vous étiez enfant. C'est très simple et en même temps, c'est très savant.
Je crois d'ailleurs qu'il a été une influence des Shadok.
vous voyez, comme quoi, il a pu influencer beaucoup de gens.
C'était pendant ma convalescence, vers la fin de la guerre, vers tout près de 1918. À ce moment-là, je voyais 6 films par jour. Parce que, pour attirer les gens, les exploitants donnaient 2 films par séance, et il y avait 2 séances l'après-midi et 1 le soir. Je les voyais toutes, j'ai donc vu 6 films par jour pendant à peu près 1 an. C'est comme ça que je suis venu au cinéma. Seulement, je n'osais pas me lancer. Parce que je me méfiais, voyez-vous, du mot « art ». Et les quelques cinéastes que j'avais fréquentés employaient le mot art, disaient « nous sommes des artistes à tout venant ». Et je tenais mon père la crainte de ce mot. Mon père en avait horreur. Il disait « moi, je suis un ouvrier de la peinture ».
Oui, mais c'est par pudeur.
Naturellement que c'est par pudeur, mais moi, jeune homme, je le prenais au mot.
Le réalisateur Jean Renoir au micro de Marc Blanpin dans les années 50. Vous avez choisi Hippolyte Girardot, Renoir, père et fils. Qu'aimez-vous chez l'un et chez l'autre ?
Oh là là.
Ouais.
Ce qu'il vient de dire sur son père, on voit très bien ce que son père doit dire. C'est de la pudeur et moi je pense pas que de la pudeur, un peu de prétention et c'est pas mal. Il avait inventé cette phrase que moi j'adore, qui est il faut être comme un bouchon dans la rivière pour vivre, voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas essayer de mettre une voile, un gouvernail, c'est beaucoup mieux d'être un bouchon sur la rivière. Et je pense qu'il a vécu comme ça le père et le fils, parce qu'il y a des films, bah, tout le monde les connaît, les grands films de Jean Renoir, mais c'est vrai que quand je les ai vus, j'ai commencé à aimer le cinéma de l'ancien temps, en fait, j'ai envie de dire. Avant j'étais un peu imperméable, la façon de jouer des acteurs, des trucs comme ça, j'étais pas du tout complice de ce qu'il faisait à l'écran, j'étais pas quoi du tout. J'étais plus, je préférais Lubitsch, des gens comme ça. Et puis, grâce à Renoir, en fait, j'ai commencé à voir le classicisme français et à m'y intéresser et même à l'aimer, quoi. Et ça, c'était une grande, grande découverte. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que la dernière œuvre, en fait, de Jean Renoir, c'est un livre sur son père. Et Pierre-Auguste Renoir, mon père, c'est un livre qu'il faut lire. C'est un livre merveilleux, absolument extraordinaire, et qui raconte la vie de son père d'une excellente façon, parce qu'au lieu de parler biographie, enfin historique, en fait, il prend des morceaux de son père. Les mains, par exemple, il fait tout un truc sur les mains, quand il est jeune, puis quand il est vieilli. C'est l'histoire des mains qui vieillissent. C'est un livre extraordinaire.
Et de Renoir père aussi, entouré de biches qui viennent presque toucher ses toiles pendant qu'il peint.
Ça me semble pas, il devait être très très tranquille. Il devait avoir une petite tête de bouc, peut-être, non ?
Peut-être, peut-être. Alors, il y a une œuvre, Hippolyte Girardot, au sujet de laquelle André Breton a dit, vous allez deviner l'œuvre, j'imagine, « Nous nous trouvons ici en présence d'une interprétation mécaniste, cynique, du phénomène amoureux, le passage de la femme de l'état de virginité à l'état de non-virginité, pris pour thème d'une spéculation foncièrement asentimentale. » C'est ce qui s'appelle « Couper les cheveux en quatre ». C'est Marcel Duchamp. Et je parle de quoi ?
Du grand vert.
Ouais. Oui. Aussi connu sous le nom de la mariée mise à nu par, voilà, ses célibataires même.
Alors, Breton, on n'y comprend rien.
Non, rien.
On adore, parce que c'est très français, ça, de rien comprendre au surréalisme dans la bouche d'André Breton. Marcel Duchamp non plus, on n'y comprend pas grand-chose. Mais l'anecdote qui est formidable, c'est que le grand vert, c'est c'est un accident. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un accident. Cette œuvre a voyagé, La mariée mise à nu a voyagé depuis la France jusqu'à Philadelphie aux États-Unis. Et la vitre s'est brisée parce qu'ils ont voyagé avec la vitre.
Parce que c'est deux grandes plaques de verre choses suspendues.
Ensuite, il a passé 15 ans à recoller tous les morceaux de verre comme un grand puzzle, 15 ans, je dis n'importe quoi, peu importe, et pour faire cette œuvre que tout le monde regarde évidemment comme l'aboutissement ultime de la pensée de Marcel Duchamp. Moi, je trouve que quand on arrive à ce niveau, peut-être même d'absurdité au final, je trouve qu'on atteint quand même le grand, grand sommet. Mais cela dit, l'œuvre est extrêmement belle. Esthétiquement, c'est un enchantement.
L'embellie. Eva Bester.
Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on. Thank you.
Kinawuka, Beautiful Life, nous sommes toujours en compagnie d'Hippolyte Girardot qui a dit « Certains ont besoin d'un canif et d'autres d'une kalachnikov pour s'armer dans l'existence. Entre les deux, le choix est infini. » Ça, c'est votre réponse, Hippolyte Girardot, ah oui, à l'une de mes pauvres questions qui était « Recommandez-nous une œuvre pour s'armer dans l'existence. » Rien ne vous a rendu plus résistant, solide, même une idée, un sentiment ?
Non, je crois que ce qui rend solide, c'est l'amour qu'on reçoit très tôt, très jeune, et l'encouragement. C'est vrai que.
Et si on n'en reçoit pas, alors qu'est-ce qu'on a un conseil pour ceux
Je pense que quand on n'en reçoit pas, il faut lire les bouquins des mecs qui s'occupent de la résilience, là, comme Cyrulnik. Apparemment, c'est expliqué dans How to Do, quoi.
Mais ouais.
Je pense que ça, ce qui arrive, et ça, moi, je peux pas. Enfin, moi, j'en suis pas témoin, mais je sais que ça arrive. Des gens qui ont une sorte de satori, une sorte d'illumination devant une œuvre ou musique ou un livre qui peut avoir, ou même quelque chose qui soit de l'ordre que comme la voûte nubienne, comme mon ami Thomas Granier. Voilà, il était marié à une femme dont le frère était maçon. Il a vu construire ça, et d'un seul coup, il a eu une sorte d'illumination. Il a dit, je vais faire ça le reste de ma vie. Et ça fait maintenant 20 ans qu'il fait ça, quoi. Mais avant, il savait pas du tout qu'il s'occuperait de ça. Donc, je pense qu'il l'a fait aussi parce que ça l'armait, justement, dans la vie. Ça lui permettait de lutter, ça lui permettait d'avancer, ça lui permettait d'avoir un but, de se sentir un tout petit peu nécessaire, un peu utile à lui-même. Et je pense que c'est très difficile de savoir ce qui peut, à un moment donné, créer cette force-là, si vous l'avez pas eu dès le départ.
J'illustre les réponses de mes invités avec n'importe quoi.
Voilà.
Là, c'est la chanson du générique du dessin animé « Il était une fois la vie ». Ouais. Je suis très contente de passer à l'antenne.
Merveilleux, bravo Eva.
Merci Hippolyte Girardot. Et pourquoi je fais ça ? Parce que à la question « Qu'aimeriez-vous accomplir au cours de votre vie ?», vous avez répondu « Ben, la vie ».
Oui, voilà. Voilà. Et ça vaut bien le générique de ce feuilleton,
bah oui,
donc apparemment non.
Hein ? Mais c'est déjà fait alors, vous l'avez déjà accompli la vie.
Bah, c'est pas fini, donc voilà, tous les jours.
Oui, bien sûr.
Tous les jours, on fait la vie.
D'accord.
Faire la vie, ça se dit, c'est une expression.
Ça se dit.
Qu'est-ce que t'as fait hier ? Putain, j'ai fait la vie. Ça veut dire on s'est éclaté.
Ah, je connaissais pas cette expression.
Parce que je suis un vieux renard, un tonton flingueur, c'est pour ça que je connais une expression qui n'existe plus. Qu'est-ce que vous croyez, ma petite ? Ah bah oui, c'est comme ça.
Je vous ai aussi demandé ce que vous aviez raté. Et alors là, là c'est la révolution. Raté au regard de quoi ? Quelle cible aurais-je manqué ? La réponse à votre question n'est pas le quoi, mais plutôt la signification du verbe. Argue, c'est ma seule réponse.
Bah oui. Qu'est-ce qu'on a raté? On ne sait jamais ce qu'on a raté.
Mais parfois c'est un sentiment, c'est subjectif.
Mais on ne sait jamais ce qu'on a raté. Parce qu'on a raté des trucs, c'est pour en réussir d'autres. Et donc on a le sentiment que merde, on a loupé ça, mais c'est très bien d'avoir loupé ça. Parce que comme tu as loupé ça, tu vas réussir autre chose. Ce truc-là que tu as raté, en fait, il fallait que tu le rates. Au moins, tu as compris qu'il fallait pas que tu le fasses. Et donc, une fois que tu as compris qu'il fallait pas que tu le fasses, eh ben, peut-être que tu vas faire quelque chose qu'il faut bien que tu fasses. Et que tu feras bien, que tu réussiras. C'est pas compliqué.
Non, c'est pas compliqué. C'est assez merveilleux comme idée. Ouais, bien sûr. Bien sûr, quand on n'a pas quelque chose, ça fait de la place pour quelque chose de mieux, sans doute, peut-être.
C'est possible.
Je vous ai aussi demandé, bon, Hippolyte Girardot, de choisir quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. Et bon, là, c'est pareil, hein, vous avez interrogé toute la notion de beauté, de où elle se trouvait, de ce que ça voulait dire. Et puis, vous avez parlé des clichés de coucher de soleil et de cette citation magnifique de Céline qui a été beaucoup reprise. « L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches ».
Ah oui, j'adore cette citation, parce que ce qui est intéressant avec Céline, avec à l'antisémitisme impardonnable, c'est aussi que c'était un médecin qui soignait les gens gratuitement dans son petit cabinet de Meudon. Et donc voilà, c'est quand dans cette phrase, il y a à la fois beaucoup de compassion, même j'ai envie de dire de solidarité pour les petits caniches, et en même temps une espèce de vision tellement désespérée de ce qui peut arriver. C'est assez rare de réussir, comment dire, le sucré salé dans une seule phrase. Donc lui, il l'a fait, et j'aime beaucoup cette phrase pour ça, pour cette idée du sucré salé. Et sinon,
on est des créatures risibles en fait à photographier les couchers de soleil, c'est ça que.
Maintenant, ce qui est intéressant, il y a un truc technique. Il y a un truc technique, il faut que je vous raconte.
Ah ouais, racontez-nous.
Oh, 2 minutes. Hein.
Ah oui.
Alors, vous savez les anguilles?
Oui, j'en fréquente beaucoup.
Les vraies anguilles, elles ne peuvent se reproduire qu'en mer des sargasses. Elles ne peuvent pas se reproduire ailleurs. Elles partent du fin fond de la Méditerranée. Elles font un voyage quand même assez long, puisque la mer des Sargasses se trouve à côté des Caraïbes. Et là, elles se reproduisent. Et pendant ce voyage, il y a un truc qui se passe dans leur corps, puisqu'elles traversent, elles partent de la Méditerranée à l'océan Atlantique, c'est que leurs yeux changent pour s'adapter au nouveau milieu où elles vont arriver. Pourquoi je disais ça?
Pour les couchers de soleil, le fait qu'on les photographie toujours, le lyrisme, ouais, et l'amour à la portée des caniches.
Parce qu'en fait, au moment du coucher de soleil, notre organisme perçoit la fin de la lumière, et il paraît que nos yeux, notre fonction oculaire, changent de nature à ce moment-là, pour s'habituer à la nuit. Il y a quelque chose de physiologique en nous qui s'opère à ce moment-là, qui est quelque chose qui apparemment nous fait un grand bien. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours un coucher de soleil beau. Alors qu'en fait, non, c'est tragique. C'est absolument tragique. Le soleil disparaît. C'est tragique. On n'est pas fait du tout pour vivre dans la nuit. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Et donc ça, c'est vachement intéressant d'être là tous à photographier des couchers de soleil en disant c'est beau. Ben non, les couleurs sont marrantes, mais c'est tout. C'est pas spécialement beau. C'est beaucoup plus beau quelqu'un qui se retourne vers vous en vous disant « Tu viens ?» Ça, c'est beau.
Ça dépend qui c'est.
Bah, quelqu'un, un ami, une amie,
oui,
qui vous dit ça.
Une anguille.
Hey, « Tu viens ?» Ça, c'est inoubliable comme image. Un coucher de soleil, c'est tout de suite oubliable. On les confond. Celui qu'on a fait au bout de la Bretagne ou celui qu'on a fait dans les Caraïbes. C'est quoi cette photo? Je sais pas. C'est un coucher de soleil.
Hippolyte Girardot, vous avez joué le jeu malgré tout pour l'engagement de fin d'émission.
Mais je l'ai raté, donc l'émission, ce qui fait que j'ai réussi.
Réussir
une autre.
Vous l'avez réussi, l'émission, justement, vous l'avez parfaitement réussi.
On l'a fait ensemble, Eva.
Mais oui, c'est vrai.
C'est pour ça que c'est bien.
Vous vous engagez à faire attention et vous dites que ce serait déjà pas mal. Attention aux autres, à votre environnement, à vous-même.
Ben, attention, dans l'attention, il y a quand même être attentif, quoi. Oui, il faut être toujours attentif aux autres. Et c'est une façon aussi d'être attentif à soi, à la façon dont on est. Ouais.
Faire attention.
Ouais, faire attention.
Merci beaucoup.
Et donner de l'attention aussi.
Merci d'être venu, Hippolyte Girardot.
Merci de m'avoir invité. Enfin, d'avoir quand même invité.
Ben oui, bien sûr. On peut vous retrouver dans le film de Wes Anderson, The French Dispatch, et dans la série Munch avec Isabelle Nanty, tous les jeudis à 21h05 sur TF1, et sur la chaîne, dans l'émission Par Jupiter de Charline Vonnenacker et Alex Vizorek. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission. Nous, on vous attend sur les réseaux sociaux. J'espère que votre semaine sera aussi ébouriffante que les humeurs d'un palmipède photomaton. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.